Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Cocon. Le Cocon est un podcast dans lequel j'accueille un coach inspirant pour explorer ensemble un sujet de développement personnel par le prisme de son propre parcours. Le but est de vous insuffler des pistes de réflexion et des clés pour mieux se connaître et ainsi mieux appréhender notre monde. Aujourd'hui, nous retrouvons Clément Leroy pour notre tout premier épisode sur les liens entre optimisme, motivation et réussite. Je l'ai rencontré lors d'un salon de la Pitech, un collectif de start-up sur le bien-être au travail, et j'ai de suite pensé à lui pour un tout premier épisode hyper motivant. Clément est à la fois coach, conférencier et psychologue cogniticien. Il est aussi quintuple champion du monde, dans une discipline quelque peu originale, que je vous laisse découvrir en écoutant cet épisode. Bonjour Clément.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu du podcast pour notre premier épisode qui vise à montrer en quoi être optimiste permet d'être acteur de sa réussite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Avec plaisir, oui. Je m'appelle Clément Leroy, je suis psychologue cogniticien, c'est-à-dire que je m'intéresse au fonctionnement du cerveau et comme il est très complexe, je me suis orienté sur la didactique professionnelle, comment est-ce qu'un adulte apprend un métier. Et en parallèle de cela, je suis aussi quintuple champion du monde d'équilibre statique à vélo et recordman du monde d'endurance dans la discipline. J'ai tenu 24 heures et 26 secondes l'été dernier à Albi sur mon vélo statique.
Et on s'intéresse en particulier au thème de la psychologie positive. Est-ce que tu pourrais me dire un peu plus ce que c'est ?
Alors oui, je parlais à l'instant de psychologie cognitive, mais je me suis aussi beaucoup intéressé à la psychologie positive, qui est une science qui vient s'intéresser aux origines de la santé, aux origines de notre bien-être. Qu'est-ce qui nous rend heureux ? Et cette science qui est très intéressante, c'est l'histoire de son émergence. C'est Martin Seligman, son père, qui était dans les années 80 un spécialiste américain de la dépression. Et puis un jour, il s'est réveillé, entre guillemets, en se disant « Mais mince, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse en psychologie exclusivement aux personnes qui vont mal, alors qu'autour de moi, je vois exclusivement des personnes qui vont bien ?» Et donc, il s'est dit « Et si on créait une branche de la psychologie qui, justement, s'intéresserait aux caractéristiques du bien-être, de l'épanouissement personnel ?» Et c'est en 1998 que ça s'est matérialisé et qu'il a créé cette nouvelle science.
Super. Tu parles des personnes qui vont bien. Si on s'intéresse au sujet de la motivation, qu'est-ce qui fait qu'on est motivé ou non ?
La motivation, si on devait la définir, c'est ce qui nous met en action, ce qui nous fait nous activer, nous bouger. Et il y a Daniel Pink qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et qui nous montre qu'en fait, il y a trois clés qui vont nous permettre de nous motiver, de motiver nos collaborateurs quand on est manager. Ça va être la première, l'importance de prendre du plaisir. La seconde, l'importance de se voir progresser. Et enfin, le caractère essentiel du sens de notre mission. Si notre mission a du sens, si on se voit progresser au jour le jour et qu'en plus on y prend du plaisir, là, systématiquement, la motivation sera maximale.
Et dans ton cas particulier, est-ce que tu auras un exemple à nous donner de la façon dont tu as illustré la motivation ?
Oui, bien sûr. Là, par exemple, l'été dernier, j'étais au championnat du monde de coursier à vélo à Jakarta pour participer pour la 7e fois pour ma part. Et en fait, avant les championnats du monde, il y a l'échéance qui s'approche, donc il y a beaucoup de sens. Je me vois progresser de jour en jour parce que j'ai des différentes figures que je veux travailler. Et forcément, plus l'échéance s'approche, plus j'ai envie de m'entraîner et je me vois progresser. Donc ça m'aide. Et enfin, j'ai énormément de plaisir à pouvoir progresser et réaliser des photos dans de nouvelles conditions ou des vidéos. Et ça, je pense que c'est une belle illustration à quel point plus l'échéance s'approche et plus je suis motivé. Et ça marche pour toutes les situations de la vie courante quand on a un objectif à la fin de l'année. Voilà, plus il approche, plus il se concrétise. Et donc, moins on a de marge de manœuvre. Donc, c'est à nous de faire la différence pour justement nous dépasser et atteindre cet objectif.
Donc, justement, tu parles d'objectifs. Tu as l'air d'en avoir beaucoup. C'est super. Comment tu fais pour te fixer ces objectifs ?
Alors, je dirais que le plus important, c'est d'avoir des objectifs qui soient ambitieux, qui soient attrayants. Pourquoi ? Parce que parfois, on peut se dire, si mes objectifs sont faciles à atteindre, sont faibles, je vais être très motivé, je vais les atteindre facilement. Et en fait, par mon expérience, j'ai pu remarquer le contraire. Dans mon tout premier projet que j'ai mené, j'avais peu d'ambition, entre guillemets. Je suis allé chercher des partenaires, des sponsors pour m'accompagner jusqu'au Cap Nord en Norvège. Et malheureusement, personne n'a répondu présent. Et un soir, j'ai eu l'idée en fait de rajouter une grosse difficulté, de rendre ce projet plus attrayant. C'était d'essayer de sonner chez l'habitant pour essayer de rejoindre le Cap Nord. Donc je partais avec la voiture de papy. Et au lieu simplement de dormir dans ma tente, je me disais, tiens, je vais offrir un spectacle aux gens qui m'hébergeront. Et s'ils m'hébergeront, eh bien, s'ils m'hébergent, je leur ferai un spectacle pour inviter les voisins, les copains. Et en fait, cette grosse difficulté que je me rajoutais a rendu le projet novateur, innovant. Et grâce à ça, en fait, j'ai trouvé beaucoup plus facilement des partenaires. Et en un mois et demi, j'ai réuni suffisamment de fonds pour partir en février 2014 jusqu'au Cap Nord. J'ai dormi dans plus de 40 maisons aux quatre coins de l'Europe. Donc les partenaires qui m'ont accompagné dans ce projet m'ont donné la foi, l'envie de réussir. Et là, on voit à quel point un objectif doit être délicat, difficile à atteindre. Il y a Mihaili, Seasoned Mihaili, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et il explique qu'en fait, si on a des objectifs trop faciles à atteindre, on va s'ennuyer. Et du coup, ça va être contre-productif. On ne va pas se motiver. C'est un petit peu comme la fable du lièvre et de la tortue, la fable de La Fontaine. Effectivement, si c'est trop facile pour nous, qu'on ait le lièvre, mais en fait on se lance pas, et malheureusement on peut échouer dans des objectifs très très simples. À l'inverse, si on a un objectif trop ambitieux, trop difficile, trop délicat, eh bien là le problème, c'est qu'on va se mettre un petit peu trop de pression, et en fait ça va nous casser nos capacités, et malheureusement on ne pourra pas y arriver. Donc c'est important d'avoir des objectifs qui soient toujours au bon niveau.
En parlant de motivation et d'objectifs, on parle aussi de plus en plus d'optimisme. Comment on peut justement booster sa motivation par l'optimisme ?
Alors, sur les liens entre l'optimisme et la motivation, je dirais qu'il y a quelque chose de très important déjà à savoir. C'est que l'optimisme, quand on est un peu au fond du gouffre, que tout va très mal, eh bien c'est très très important. C'est ça qui va nous permettre de sortir la tête de l'eau. Si on sort d'une dépression ou qu'on a un moment un petit peu délicat à gérer, eh bien en fait, grâce à l'optimisme, on va pouvoir aller de l'avant, construire quelque chose, et c'est ça qui va nous aider à nous en sortir. En revanche, quand on est trop optimiste et que tout va bien, là l'optimisme va être contre-productif, parce qu'on va avoir tendance à se reposer sur nos lauriers. Et là, malheureusement, on risque plutôt de se détendre que de bosser. Et donc, ça ne fonctionne pas. Il y a Gabriele Oettingen, qui est une Allemande qui a beaucoup travaillé sur cette notion, et qui s'est rendu compte que si on se concentre sur les obstacles et les freins qui peuvent nous arriver, et qu'on est très optimiste, et bien c'est ça qui va nous permettre de réaliser nos rêves, nos objectifs. En fait, on vise quelque chose avec beaucoup d'optimisme, c'est très ambitieux. Si on se dit, en revanche, c'est très ambitieux, mais si je fais attention à ça, ça, ça et ça, alors ça devrait marcher, et bien on se concentre sur nos difficultés, on essaie de passer à côté, et c'est comme ça qu'on se réalise. Sur l'optimisme, je dirais que c'est essentiel d'avoir des projets utopiques. Pour ma part, c'est comme ça que je me suis lancé il y a 6 ans dans ce projet de dormir chez l'habitant. En fait, j'ai mon voisin, mon meilleur ami d'enfance, Pierre-Marie, qui m'a un soir dit « Clément, de toute façon, tout ce que tu entreprends réussit. » Et là, je me suis arrêté, je l'ai regardé, et je me disais « C'est pas possible, ça peut pas fonctionner comme ça. » Mais j'ai quand même gardé à l'esprit cette phrase hyper, hyper boostante qui m'a donné une confiance en moi inébranlable pour quelques jours du moins. Et en fait, 4 jours plus tard, je vais me retrouver chez moi à me faire une sorte d'auto-brainstorming. C'était le soir de Noël, 24 décembre 2013. Et je vais mettre des mots en vrac sur mon ordinateur. Je vais d'abord mettre voyage, rencontre, Norvège, Cap Nord, etc. Et puis, je vais réfléchir à comment je pourrais organiser ces idées pour construire un projet qui m'emmène justement jusqu'au Cap Nord. Je vais réfléchir à un moment eureka. Je me dis, mais ça y est, j'ai l'idée, je vais sonner chez l'habitant, je vais tenter d'offrir un spectacle d'équilibre statique, et je vais essayer de troquer ce spectacle contre une nuit au chaud. Et en fait, dit comme ça, écrit sur le papier, ça semblait juste impossible. Mais j'ai commencé à sonner chez mes voisins, à tourner des images, j'ai réalisé un dossier de partenariat, que j'ai commencé à envoyer à des entreprises. Il y a des chefs d'entreprise qui ont dû se dire il est fou celui-là, mais pourquoi pas, on a envie de poursuivre ses rêves avec lui. Et c'est très drôle, puisque le dirigeant des transports jumeaux, 5 jours plus tard, va me dire « Clément, je crois pas du tout en ton projet, mais j'aime ta folie, tiens ». Et il va m'offrir mon premier chèque pour m'envoler pour le Cap Nord, pour prendre la route du Cap Nord plus littéralement. Et en fait, ça va fonctionner. Je vais réussir à dormir chez l'habitant, d'abord dans plus de 40 maisons jusqu'au Cap Nord. Et comme ça a marché, j'ai fait la même chose en France, un tour de France des communes non insolites, puis au Japon, au Canada et plus récemment en Indonésie l'été dernier. Donc, cela montre à quel point, quand on a un optimisme utopique, qu'on vise un peu l'impossible, eh bien, si on a des personnes autour de nous qui aiment bien l'idée, qui trouvent ça intéressant, eh bien, en fait, elles peuvent nous permettre de rendre les choses possibles. Et si elles ont un intérêt à ce que notre projet fonctionne, comme là, en l'occurrence, mes partenaires, plus ça fonctionnait et plus on les connaissait. J'ai réussi à passer sur France 2 dans ce premier projet, donc c'était assez chouette. Eh bien, en fait, derrière, l'impossible devient possible. Donc, je pense que l'optimisme est vraiment à l'origine de toutes les réussites, c'est absolument essentiel.
Merci pour ce très bel exemple qui est hyper inspirant. Et la fois où on s'était rencontrés à la Happytech, tu avais soulevé une expérience qui avait montré des résultats particulièrement intéressants sur justement les fondements de la motivation, comme quoi ils n'étaient pas financiers contrairement à ce qu'on croyait. Est-ce que tu pourrais développer ce sujet ?
Oui, effectivement, c'est une expérience très très intéressante que Daniel Pink soulève dans son livre La vérité sur ce qui nous motive. Et en fait, ce qu'il nous montre, c'est que Karl Dünker, un psychologue en 1945, s'est intéressé au problème de la bougie. Il a créé une expérience où on met un participant dans une salle avec sur le mur un tableau de liège pour pouvoir planter des punaises. Et sur la table, il y a une bougie, des allumettes dans une boîte et une boîte de punaises avec les punaises à l'intérieur. Et il dit aux participants, vous devez poser la bougie sur le mur en liège, de façon à ce que la cire ne coule pas par terre. Les participants doivent réfléchir, et c'est une épreuve qui requiert de la créativité, parce qu'il faut sortir les punaises de leur boîte pour pouvoir punaiser la boîte de punaises contre le mur, mettre la bougie dedans, et ainsi la cire coule dans la boîte de punaises. Ça demande beaucoup de créativité, et si on refait la même expérience en retirant les punaises de leur boîte, en séparant les deux, là ça requiert plus du tout de créativité, la solution saute aux yeux et chaque participant est beaucoup plus rapide à trouver la solution. En 1945, il fait cette étude-là, il trouve des résultats intéressants, mais c'est Sam Glucksberg en 1962 qui va nous intéresser maintenant. C'est que ce chercheur américain va réutiliser cette expérience et cette fois-ci il va motiver financièrement les participants en se disant, tiens, lesquels vont être les plus efficaces pour trouver la solution ? Ou plutôt, il se disait, quand on va payer des participants, de combien est-ce qu'ils vont être plus performants ? C'était ça, sa véritable première hypothèse de travail. Donc, il prend un premier groupe, il est chronomètre, mais il ne les rémunère pas. Et il prend ensuite un second groupe, et là, il va les rémunérer. Le premier, il va lui dire, je te donnerai 20 dollars. Et le quart de les 25% de participants les plus rapides, ils gagneront 5 dollars. Et c'était il y a un demi-siècle, donc avec l'évolution du niveau d'inflation, ça représentait déjà une belle somme d'argent pour quelques minutes d'expérience. Eh bien, qu'est-ce qu'il a constaté, en fait, Sam Glucksberg ? Il s'est rendu compte en 1962, donc c'était il y a plus de 50 ans, que les personnes qui étaient rémunérées étaient plus longues pour trouver la solution que les personnes qui étaient non rémunérées. Donc là, il a choqué cet expérimentateur qui a recommencé du coup cette expérience. Et en parallèle, Sam Glucksberg a proposé la même expérience avec les punaises sorties de la boîte. Et là, systématiquement, les participants qui étaient payés, qui étaient rémunérés pour l'expérience, étaient beaucoup plus rapides pour trouver la solution que ceux qui n'étaient pas rémunérés. Donc là, on voit à quel point la performance va être liée à l'absence de rémunération. Quand la tâche requiert de la créativité. Il y a plein d'Américains, plutôt businessmen dans l'âme, qui se sont dit « c'est impossible, ça ne tient pas à la route ». Ils ont reproduit cette expérience aux États-Unis, en Europe, au Japon, puis dans des pays asiatiques beaucoup moins aisés. Et systématiquement, dans la tâche qui requiert de la créativité, les personnes qui sont rémunérées vont être moins rapides, moins performantes que les personnes non rémunérées. Et je pense que c'est très important d'avoir ça à l'esprit aujourd'hui, dans un monde où on a besoin de plus en plus de créativité dans nos emplois à chacun au quotidien. Peu importe nos postes, on a besoin, peu importe notre poste, d'être de plus en plus créatif. Donc on voit à quel point le jeu, l'envie, le plaisir que l'on prend dans notre métier sont essentiels. C'est ce qu'on appelle en fait la motivation intrinsèque. C'est la motivation qui émane de l'exercice en lui-même, de la mission en elle-même, et non de ce qu'on en tire indirectement, extrinsèquement. Les facteurs de motivation extrinsèques sont par exemple la paye à la fin du mois, une éventuelle prime, etc. Donc pensez-y, quand vous êtes manager, eh bien c'est essentiel de donner à vos collaborateurs des missions qui soient les plus attrayantes possibles pour eux, de manière à les motiver au maximum.
Super, merci beaucoup pour cette explication des liens entre l'optimisme et la motivation. Dans ta conférence, tu parlais aussi du fait de cultiver sa chance, comme si finalement c'était quelque chose sur lequel on pouvait agir. Comment tu pourrais nous expliquer en quoi on peut provoquer sa chance par l'optimisme ?
En effet, il y a Richard Wiseman, qui est un Américain qui a beaucoup travaillé sur la chance. À l'origine, il était magicien et un jour, il s'est intéressé à la psycho. Et il a publié une annonce dans les petits journaux. Il a dit « Bonjour mesdames, messieurs, si jamais vous êtes quelqu'un de très malchanceux, tous les jours le ciel vous tombe sur la tête et que vous vous sentez très mal, eh bien j'aimerais que vous m'appeliez parce que je suis chercheur et j'aimerais analyser vos événements de vie pour mieux vous comprendre et comprendre pourquoi vous êtes malchanceux. » Il reçoit énormément de personnes et il va analyser leur profil de vie. S'ils se sont mariés, s'ils ont eu des enfants, s'ils ont eu des problèmes, des accidents, des choses. Et deux semaines plus tard, qu'est-ce qu'il fait ? Il reproduit exactement la même annonce en inversant les choses. En disant « Bonjour madame, messieurs, si jamais vous êtes très très chanceux, si vous avez une bonne étoile et que toutes les plus belles choses qui soient vous arrivent, j'aimerais que vous me contactiez pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui déclenche toute votre chance. » Il va de nouveau recevoir énormément de personnes, analyser leur profil type de vie. Et là, qu'est-ce qu'il va découvrir ? Il va essayer de comparer, en fait, les deux profils de vie. Et là, de manière très, très surprenante, il va se rendre compte que ces personnes ont vécu systématiquement le même type d'événement. Qu'elles se trouvent extrêmement malchanceuses ou très chanceuses, les personnes vont avoir vécu les mêmes expériences de vie. Donc là, il vient vraiment apporter une réponse très novatrice parce qu'on aurait pu instinctivement se dire qu'effectivement, il y a des vies moins marrantes que d'autres. Eh bien non, en fait, ça se rapproche de l'adaptation hédonique, ce qui est ce concept de psychologie qui montre que peu importe nos événements de vie, eh bien tôt ou tard, on finit par retrouver le même niveau de bonheur. C'est ce qu'on constate par exemple chez les gagnants au loto. Pendant quelques semaines, quelques mois, ils vont être hyper heureux. Et puis, en fait, bah, les choses vont se calmer, entre guillemets, et ils vont retrouver leur niveau de bien-être qu'ils avaient avant de gagner au loto. Et de la même façon, des personnes qui vont vivre un accident tragique, qui vont perdre une jambe, qui vont perdre un membre, eh bien, on se rend compte que si elles étaient très heureuses avant, eh bien, elles vont avoir une période de deuil plus ou moins longue, bien évidemment. Hein. Pour certains, ça va durer plus d'une dizaine d'années. Mais une fois que ce deuil est réalisé, eh bien, ces personnes vont retrouver leur niveau de bien-être qu'elles avaient avant leur accident. Donc on voit à quel point chacun d'entre nous peut s'adapter, peut s'accoutumer à n'importe quel type de situation. Et là, on en vient à votre question sur comment cultiver la chance. Eh bien, c'est bien à chacun d'entre nous de changer notre prisme de lecture des événements qui nous arrivent pour non plus voir le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein. Les Français sont parmi les plus pessimistes du monde, d'après de nombreuses études. Et justement, c'est à chacun d'entre nous de diminuer nos attentes et surtout de se concentrer sur comment est-ce qu'on pourrait tirer positivement de cette situation. Pour donner un exemple très concret sur la chance, admettons, demain, vous perdez votre emploi. Vous perdez votre emploi, vous pourriez vous dire « mais c'est toujours sur moi que ça tombe, c'est pas possible ». Vous arrivez à votre prochain entretien d'embauche, qu'est-ce que vous allez dire aux dirigeants ? Vous allez dire « waouh, je me suis encore fait virer, c'est une catastrophe, de toute façon ça tombe que sur moi ». Qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va se dire « c'est quand même pas lui que je vais recruter, il va... avec sa mauvaise mine contagieuse, on est foutu ». À l'inverse, si la personne qui perd son emploi se dit « c'est pas grave, chanter en ce moment qu'il fallait que je parte dans une nouvelle direction, bah là au moins ça me force à me bouger, allez c'est parti, je vais changer de secteur, je vais aller voir d'autres entreprises, eh bien, si on arrive avec plein d'envie, une super foi, eh bien derrière forcément on va être beaucoup plus convaincant et là le dirigeant, le recruteur pourra parier sur nous. Et donc je pense qu'il est là en fait, c'est ce qu'on appelle en psychologie la prophétie autoréalisatrice. C'est le fait de réaliser ce qu'on a simplement dit, voulu, souhaité ou projeté. Effectivement, si on se concentre sur qu'est-ce qu'on aimerait devenir, qu'est-ce qu'on aimerait construire, qu'est-ce qu'on aimerait faire, eh bien simplement grâce à cela, en se disant que ça va se réaliser, eh bien ça nous permet d'arriver avec le sourire, d'être plus avenant, d'en vouloir et ainsi de dessiner toutes les conditions de notre réussite.
Merci beaucoup. Tu parlais tout à l'heure des Français qui ont la réputation d'être pessimistes. Au contraire, aux États-Unis, on cultive beaucoup l'optimisme, le développement personnel, etc. Et j'ai eu la chance là-bas de découvrir le concept de l'état de flow. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous dire comment l'atteindre ?
Ah, l'état de flow est effectivement un concept en psychologie qui est très intéressant, en psychologie positive. C'est Mihaly Csikszentmihalyi, un grand chercheur hongrois, dans ce champ de recherche qui l'a découvert, ou plutôt qui l'a nommé. Et c'est une sorte d'état mental qui va nous créer une sorte de distorsion temporelle. On va avoir un bien-être optimal, on va être très très performant. Et ça rejoint en fait la notion tout à l'heure, quand je parlais d'objectifs fixés au bon niveau, ça rejoint cette notion-là où quand on est dans un état de flow, eh bien nos objectifs nous paraissent tout à fait réalisables, on se sent vraiment, vraiment bien, on prend du plaisir, on se voit avancer, on se voit progresser, et ainsi on est pleinement concentré sur la tâche en elle-même, on décuple notre motivation intrinsèque, toute l'envie vient de ce qu'on fait et non de ce qu'on tire de ce que l'on réalise. Et en fait, on avance, et c'est grâce à cela qu'on atteint cet état de flow et qu'on y reste. Et ça, c'est une notion en psychologie qui est très, très riche, très puissante, parce qu'elle montre que quand on se réalise dans ce qu'on fait, eh bien on est inarrêtable, on est invulnérable, invincible.
Et en tant que coach, est-ce que tu aurais un exemple pour illustrer justement ce concept de flow ?
Oui, tout à fait. En tant que coach, en fait, quand j'accompagne un dirigeant, quand j'accompagne quelqu'un, eh bien en fait, je me rends compte que la plus grosse difficulté, c'est d'avoir des objectifs qui soient sans cesse au bon niveau. Et quand on est seul face à nos objectifs, eh bien, si on reste sur un objectif qui ne bouge pas, eh bien malheureusement, s'il était en fait un petit peu trop facile, eh bien très rapidement, on va se rendre compte qu'on va l'atteindre. Et du coup, on a tendance à viser un petit peu moins haut que ce qu'on serait nouvellement capable de faire. Et à l'inverse, s'il y a de nouveaux événements qui viennent un petit peu durcir notre quotidien ou qui nous prennent du temps, eh bien là, notre objectif qui était à l'origine atteignable devient de plus en plus difficile. Et là, on s'enfonce dans le stress, dans la pression et on ne s'en sort pas. Et ce que je constate, c'est que quand on accompagne quelqu'un, quand on est auprès de lui, et que sans cesse on prend la température sur comment il se sent, comment il voit les choses, eh bien s'il n'y croit pas trop, eh bien là on va pouvoir le rassurer, l'accompagner. On le voit aussi ça beaucoup chez les managers. Vous demandez à un manager si les objectifs de ses collaborateurs sont réalistes, il va vous dire oui, bien sûr. Et quand vous demandez au collaborateur, il va vous dire non, mes objectifs ils sont impossibles. Et en fait, on se rend compte que si le manager accompagne ses collaborateurs, eh bien là tout le monde s'en sort. Et les objectifs sont atteints. C'est la même chose lorsqu'on est coach, lorsqu'on accompagne quelqu'un. En fait, face à chaque difficulté, on va pouvoir réajuster les choses et si possible, à un niveau le plus court-termiste possible. C'est-à-dire que si on se fixe un objectif à un an, le problème, c'est que si on a un seul objectif, on ne va pas forcément bien voir si on progresse suffisamment vite ou non pour l'atteindre dans les temps. Si à l'inverse, on a un objectif mensuel, hebdomadaire et dans le meilleur des cas, quotidien, on va pouvoir se dire voilà, ce matin j'en suis là, ce soir je veux être à ce niveau-là et comme ça, tout au long de la journée, on va pouvoir voir notre avancement et si le soir on a atteint notre objectif, bah, le lendemain on peut viser un petit peu plus haut et si à l'inverse, on n'était pas totalement bien placé mais que ça restait acceptable, eh bien, le lendemain, on va un petit peu réduire notre difficulté pour justement atteindre l'ensemble de nos objectifs et petit à petit, on se voit progresser, avancer vers notre but et on finit par réaliser l'impossible.
J'aimerais terminer par une question un peu plus personnelle. Tu disais tout à l'heure que ta phrase fétiche était que tout ce que tu entreprends, tu le réussis, ou en tout cas, c'est ce que te disent tes amis. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien que tu aies fait que tu regrettais plus tard ?
Alors oui, effectivement, Pierre-Marie, mon meilleur ami d'enfance, m'a dit « Clément, tout ce que tu entreprends réussit ». Mais malheureusement, ce n'est pas vrai. Ça a juste boosté ma confiance en moi suffisamment de temps pour me lancer dans ma vie actuelle. Non, il y a plein de choses que j'ai échouées. En revanche, sur la question des regrets, je pense qu'il y a quelque chose... je pense que... Instinctivement, là, je dirais que je regrette rien du tout dans ma vie parce que oui, j'ai eu des moments difficiles. Je me suis fait renverser en mai 2013 sur la route. Je me suis fait arnaquer 1 500 € par un Béninois, une arnaque classique sur le Bon Coin dans les années 2009-2010. J'ai eu des petits coups comme ça où je pourrais vraiment, vraiment en vouloir aux personnes, d'autant plus que quand j'avais emprunté de l'argent à un ami pour cette fameuse arnaque, et il m'a dit, mais Clément, mais si tu m'avais dit que c'était pour ça, jamais je t'aurais prévenu et t'aurais pas perdu ton argent. Et en fait, avec le recul, je suis hyper content de tous ces événements négatifs, parce que c'est sur, en fait, c'est sur ces difficultés que je me suis construit. En l'occurrence, suite à cette arnaque, j'ai dû ressortir mon monocycle, j'ai dû essayer de gagner un petit peu d'argent en étant animateur en centre aéré, voilà, en travaillant pendant tous les mercredis ou pendant les petites vacances. Et c'est ça qui a fait qu'ensuite j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui avec mes conférences en entreprise. Donc je dirais que non, je pourrais presque remercier en fait les personnes qui m'ont causé du mal. Alors j'aurais pas dit ça sur le coup. Quand je me suis fait renverser, j'ai perdu l'usage d'une jambe pendant quelques mois. J'étais dans une attelle, j'avais une attelle, je pouvais plus faire de vélo comme tout le monde. Mais en fait, par la force des choses, comme je tenais sur un seul pied au feu rouge, en Traxten, en équilibre statique, et qu'au championnat du monde, c'était l'épreuve où j'avais le plus de chances de gagner. À la fin, il faut lâcher un pied. Et moi, j'étais excellent dans cette figure qui, normalement, ne sert à rien. Et c'est ça qui m'a permis de devenir champion du monde à Lausanne en 2013. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai pas de regrets et qu'au contraire, quand on a des événements difficiles qu'on traverse, il faut essayer un petit peu de changer notre façon de vivre, de voir les choses et se demander en quoi ça pourrait nous être utile, parce que derrière chaque difficulté, il y a un succès potentiel.
À mon tour de dire merci. Merci Clément pour cette belle leçon d'optimisme.
C'était un plaisir. À très bientôt.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez en description de l'épisode des ressources pour continuer à explorer le sujet ainsi que le contact de l'invité. Pensez à aller sur notre page Instagram, Le Cocon Podcast, sur laquelle vous pouvez nous contacter pour poser des questions, suggérer des thèmes ou des invités. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous ou à le partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Vous nous aiderez ainsi à rendre ces échanges encore plus visibles.